On sait, Marie-France, que la décision du gouvernement Legault de faire passer le nombre d'immigrants d'environ 51 000 par année à 40 000 dès cette année va évidemment faire chuter le poids démographique du Québec, là, mm-hmm. qui était au sein du Canada autour de 22,6 % pour être assez précis, mais il pourrait baisser d'ici 2040 à 20,2 %. Et l'Institut du Québec, donc, en arrive à 4 scénarios en ce qui a trait à l'immigration.
Oui, parce qu'effectivement, il y a tout ça dans la balance. Il y a le poids démographique du Québec. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut le garder, est-ce qu'on veut le maintenir? Il y a toute cette question-là. Et comme on ne fait plus assez d'enfants, la solution, c'est l'immigration. Et l'immigration, en fait, les seuils d'immigration on a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps parce que pendant la campagne électorale, sur le terrain, il y avait cette énorme pénurie. Il y a toujours cette énorme pénurie de main-d'œuvre à travers tout le Québec et la tension s'est vraiment cristallisée autour de la solution de l'immigration et aussi parce que, donc, tu l'as dit, il y avait eu ces seuils d'immigration très, très larges des libéraux et la CAQ arrivait en disant on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Tu te souviens du slogan. Alors, ces quatre scénarios-là proposés par l'Institut du Québec, il y a la solution, enfin, le scénario hypothétique là, pour établir des comparatifs, zéro immigrant, les portes fermées, 40 000 cette année et 54 000 en 2040. Le scénario 53, ça c'est à peu près le scénario libéral, et 71 en 2040. Et le scénario très, très lousse, 103 000 immigrants accueillis en 2040 par année. Et ils ont calculé l'impact sur le vieillissement. Ça aura peu d'impact sur le rajeunissement de la population. Par contre, l'impact sur l'économie, ça a été une vraie surprise. Le résultat est très mitigé. Il n'y a pas d'énormes différences. Il n'y a pas de seuil d'immigration optimal ou idéal. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Et là, c'est vraiment des chiffres d'économistes qui parlent. Il y a cette pénurie circonstancielle qui crée l'urgence et qui aide l'intégration des immigrants sur le marché du travail. Ceux qui sont arrivés entre il y a 5 et 10 ans ont vu leur taux de chômage passer à 6,7 %, alors que ceux qui étaient arrivés auparavant, c'est à 12,7 % en 2009. Donc, ils s'intègrent mieux parce qu'ils trouvent une job. Mais la question que pose l'Institut, c'est est-ce que les immigrants sont la réponse, la seule réponse à la pénurie? Et on s'aperçoit que non. Il y a d'autres mesures qu'on a un peu laissées de côté. Les aînés qui reviennent sur le marché du travail, mais il faut les accueillir d'une certaine manière. La formation de la main-d'œuvre, 50 % d'analphabètes fonctionnels au Québec, il y a des jobs qui ne sont pas comblés, c'est clair. Et si on formait mieux notre monde, probablement qu'on ne serait pas face à cette pénurie-là. Mais l'immigration est une des solutions, mais donc pas la seule solution, comme certains veulent nous le faire croire. Et quant aux immigrants, donc, le mot-clé qui revient dans cette étude de l'Institut, c'est le mot intégration. La capacité d'intégration, le seuil, en fait, devrait être déterminé par la capacité d'intégration. Premièrement, intégration par le travail, mais aussi intégration par la langue, la connaissance de la langue, par l'apprentissage de la langue dans la société d'accueil, et aussi par la société elle-même, les liens qu'on tisse, la culture, l'immersion dans la société d'accueil. Et on se rend compte que quand on parle d'immigration, qu'on parle de chiffres, de seuil d'immigration, ou qu'on parle d'intégration, il y a toujours de l'idéologie qui rentre là-dedans. Le nombre très élevé sous les libéraux, c'est l'idéologie multiculturaliste. C'est vraiment ça. Et peu importe qu'ils s'intègrent ou pas à la société d'accueil dans cette idéologie-là, parce que c'en est une, qu'ils soient dans leur communauté, avec leur culture, que ce soit des ghettos, que ce soit des silos étanches qui ne se parlent pas d'une communauté à l'autre et avec la communauté québécoise, c'est pas très grave. Alors qu'intégrer, c'est au contraire vouloir accueillir et souhaiter qu'ils veuillent rencontrer la communauté accueillante. Ça joue des deux côtés, cette volonté d'intégration-là. Donc, on se rend compte que quand on parle d'immigration, malgré les chiffres, il y a toujours une idéologie. donc qu'on ait des seuils très élevés ou des seuils plus bas, c'est de l'idéologie de toutes les manières. Et ce que propose la CAQ, l'Institut considère que, pour l'instant, c'est une bonne idée d'en avoir moins, mais de mieux les intégrer, parce que on constate que pendant les années, plusieurs années précédentes, on a mal intégré les immigrants. Donc, l'idée, c'est de bien les intégrer. On se retrouve finalement, Paul, face à cette question de l'intégration et des seuils qui se pose dans toutes les sociétés occidentales. Et de plus en plus, la question qui s'ajoute dans plusieurs pays, c'est quelle est la capacité d'accueil de la société? C'est une question en général qui est posée plutôt par des politiciens de droite, mais qui ne doit pas être balayée sous le tapis parce que ces sociétés-là se magasinent des tensions de société. Bref, c'est vraiment très intéressant le travail qu'a fait l'Institut du Québec. Ça vient montrer justement qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de seuil miracle. Beaucoup d'idéologie, c'est ce qu'on lit à travers les lignes. Vraiment un travail très intéressant.
Une autre belle maison patrimoniale qui disparaît. En fait, c'est surtout les circonstances,
Marie-France. Oui. Ah, c'est incroyable.
Je vais juste le résumer en quelques secondes. Mardi soir, arrondissement du plateau Mont-Royal, il y a des passants qui ont été obligés d'appeler le 911 vers 20 heures. Ils ont constaté qu'une partie de l'immeuble qui était situé au 4419 avenue de l'Esplanade, imaginez-vous, commençait à s'effondrer. Oui. Et c'est un bâtiment patrimonial.
Oui, c'est un bâtiment construit au début des années 1900 par un architecte, d'ailleurs, qui a donné son nom à la rue Rester, Jean-Zéphirin Rester, qui a construit beaucoup d'immeubles très intéressants à Montréal. C'est vraiment... Puis tu sais, c'est face au parc. Déjà, on avait dégagé cette rue Esplanade face au parc à l'époque, au début du 20e siècle. C'était vraiment des très belles maisons en pierre grise de Montréal. Il en reste de moins en moins. Et ce bâtiment-là, Paul... un cas de négligence extrême. Le propriétaire a cette bâtisse-là, en fait, les deux bâtisses, une à côté de l'autre, depuis 41 ans, deux immeubles patrimoniaux. L'immeuble qui s'effondrait a été jugé irrécupérable depuis 2013. Il y avait un périmètre de sécurité sur le trottoir depuis 2008. Les premières plaintes pour qu'il rénove datent de 1984, au siècle dernier. Des dizaines de constats d'infraction, des amendes, des mises en demeure. Et c'est pas un propriétaire qui voulait faire de la spéculation. C'est pas un promoteur véreux. C'est vraiment un gars complètement parano qui laissait personne s'approcher de sa maison et qui ne voulait pas que la ville rachète. La ville a tenté de racheter et toujours a essuyé des refus du propriétaire. Et la ville n'a pas le pouvoir de saisir un bâtiment. Alors, c'est vraiment une histoire, une autre histoire qui s'ajoute. Donc, est-ce qu'on pourra sauvegarder la façade? Mais c'est vraiment trop tard pour cette maison-là. Une autre belle maison qui va passer à la démolition. Et tout au long de l'année, on s'est parlé de ces nombreuses maisons. Des fois, c'était un feu. Des fois, c'était la fameuse maison Boileau à Chambly qui est passée sous le pic des démolisseurs. Une maison à Sainte-Rose qui est menacée. Il y en a beaucoup.
Il y en a eu une cette semaine à Saint-Cuthbert.
Exact.
Belle maison.
Oui.
Ah, belle oui. Maison traditionnelle, ancestrale.
Ça fait vraiment mal.
Ouais.
C'est tout un patrimoine. Il ne faut pas tout garder, évidemment, mais il est important de garder des traces. Il est important de ne pas laisser les bâtiments se dégrader, qu'ils soient à Montréal ou qu'ils soient ailleurs, à l'extérieur, au Québec, dans les petites villes ou dans les villages. On est unique en Amérique du Nord, on le sait par notre culture, mais notre manière de bâtir au fil des époques et au fil des régimes, régime français, régime anglais, notre manière de bâtir est unique aussi. Il n'y a rien qui ressemble à l'architecture du Québec, aussi bien l'architecture de maisons traditionnelles à l'extérieur des grandes villes que l'architecture des villes. Il y a une saveur, il y a une couleur qui nous appartient, il y a une couleur qui appartient à Montréal et il faut donc inventorier dans un premier temps, parce que tout n'est pas inventorié. Il faudrait aussi voir la valeur des immeubles, des maisons, des groupes de maisons, parce qu'on ne peut pas tout préserver, évidemment, il n'est pas question de tout préserver, mais il faut des politiques municipales, patrimoniales, même dans les petites villes. La maison Louis-Hippolyte de la Fontaine, on l'apprenait cette semaine, a été protégée par un promoteur qui l'a inclus dans son projet de bâtiment plus moderne. Il faut favoriser des promoteurs qui intègrent et qui comprennent le patrimoine. Il faut surtout, je pense, que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, commence un grand chantier de réflexion à la grandeur du territoire, parce qu'on a vraiment plein de bâtiments à risque. Et ça nous redonnerait une fierté. On n'a pas cette culture-là au Québec, cette culture de protéger le patrimoine. Il faut faire des lois, mais il faut aussi trouver le moyen de les appliquer. Et il faut redonner aux gens qui vivent dans ces paysages-là et dans ces bâtiments-là la fierté de ne pas laisser, comme ce propriétaire qui a laissé sa maison se dégrader depuis 4 décennies. Ouais. C'est vraiment incroyable.
Quand tu dis que celle de Saint-Hubert, là, qui a une belle maison de 1890, tu sais, avec les grandes galeries en bois,
oui,
là,
oui, absolument.
Surélevé un peu, avec des colonnes blanches. Imagine-toi, il y a des gens qui l'ont vu, puis à un moment donné, t'es plus là.
Ah, ça déchire. Non, ça déchire le cœur, vraiment.
Oui. 1890, il y a combien de générations qui ont vécu là?
Exactement. Et il y a eu toute une vague de démolition à Montréal sous Jean Drapeau. Tu sais, on voulait faire passer le progrès. On a évité d'ailleurs des autoroutes dans le Vieux-Montréal. On a beaucoup démoli, mais on a évité le pire du pire. Puis on a l'impression qu'on avait appris de ça, mais on n'a pas appris, on s'en rend compte. On continue à démolir ou à laisser se dégrader, puis après ça, on dit
C'est trop tard.
Mais on a le droit, comme citoyens, au beau et à l'histoire pour mieux nous protéger, projeter dans l'avenir.
Et nos dirigeants doivent le faire, parce que dans le cas de cette maison-là, comme je te dis, à Saint-Cuthbert, il y a des gens qui sont passés, on dit « Hey, la maison n'est plus là! » Mets-toi une maison historique, 1890. Toute l'égalité, sans la moindre consultation, on a dilapidé le patrimoine. Je t'approuve à 100% là-dessus. Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul.